Des Amazones mythiques ensorcelées et sorcières comme Médée se vengeant de Jason, la reine Amazone pentésilée luttant contre Achille, mais aussi Judith contre Holoferne, aux figures plus récentes telles que Thelma et Louise, Black Mamba, héroïne du film Kill Bill, Nikita, Arya dans Game of Thrones, la boxeuse de Million Dollar Baby, pour n'en citer que quelques-unes. Les figures de femmes violentes sont nombreuses dans les productions littéraires, cinématographiques, culturelles en général. Pourtant, au-delà de ces figures fictives, les femmes violentes existent aussi dans le monde réel. Des reines qui n'ont pas hésité à en venir au meurtre pour asseoir leur pouvoir, jusqu'aux résistantes, en passant par les sœurs Papin, les suffragettes, les combattantes, Maria del Carmen Garcia, Jacqueline Sauvage, mais aussi les tueuses en série, les terroristes, les mineurs criminels. Ces femmes violentes existent, celles qui s'emparent de la violence dans le monde réel pour parvenir à leur fin, quelle qu'elle soit. Elles suscitent en même temps fascination et aversion, elles sont décrites à la fois comme courageuses et monstrueuses, pourtant elles sont souvent passées sous silence. Une chose est sûre, ces femmes violentes n'en finissent pas d'éveiller des interrogations. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, vous écoutez Violente et à travers ce podcast on s'intéressera à ces figures, fictives ou réelles. Comment est-ce qu'elles sont représentées? Quel type de violence est-ce qu'elles utilisent? Qui sont leurs victimes? Font-elles preuve d'une violence première ou s'agit-il d'une riposte comme réponse à une violence antérieure qu'elles ont subie? Vengeance, ambition, révolution, les motivations et les violences sont diverses. Il s'agit donc de visibiliser ces femmes violentes trop longtemps et trop souvent cachées. Elles ont existé à travers les siècles, elles ont souvent été tuées. Il importe donc de mettre aussi en voix leur histoire. Merci d'écouter Violente. Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure un peu particulière, oscillant entre légende et réalité, la figure de la sorcière. Peuplant les imaginaires dès notre enfance, la sorcière est à la fois Circé, la Caraba de Kirikou, Kiki, la petite sorcière de Miyazaki, Esmeralda, aussi accusée de sorcellerie, la méchante et vieille sorcière dans Blanche-Neige. Alternativement, jeune fée ou vieillarde aux nez crochus et aux pommes empoisonnées, ces représentations sont multiples. Pourtant, l'une d'elles a notamment persisté durant de nombreux siècles, et en effet, pendant le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, la sorcière était cette femme dangereuse qui se cachait parmi la population ayant pactisé avec le diable, une figure déviante, perverse, violente donc. Et pourtant, les violences dont elle a été accusée n'ont souvent été que des prétextes, et c'est en cela que cet épisode est un peu particulier parce qu'on se penche à la fois sur une période historique réelle, celle de la chasse aux sorcières, qui a convoqué un imaginaire de violence et qui a construit cette figure de la sorcière violente pour mieux perpétrer des violences à leur encontre, justement. Et pour parler d'une représentation, quoi de mieux que d'en discuter autour d'une mise en scène de cette figure de la sorcière? Je suis donc aujourd'hui en compagnie du collectif Marthe, qui a monté une pièce de théâtre, Le Monde Renversé, un spectacle décortiquant ce mythe de la sorcière à partir du livre de Sylvia Federici, Caliban et la sorcière, un ouvrage qui revient notamment sur la chasse aux sorcières qui s'est déroulée pendant le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. Le Monde Renversé, c'est donc l'histoire de la sorcière Marthe dans un voyage historique à travers les siècles. Ce personnage fictionnel est incarné à tour de rôle par les quatre comédiennes du collectif. Il s'agit donc d'une création théâtrale mise en place et jouée par Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnot, Aurélia Luchère et Itomé Daoui, toutes quatre sorties de l'école de la Comédie de Saint-Étienne.
En 1468, j'ai 27 ans. Je suis nomade. Je vais où je peux. Puis un matin, je comprends que je suis enceinte. Mais à ce moment-là, je veux pas du tout d'enfant. Donc je dois me débrouiller pour avorter toute seule.
En 1603, j'ai 35 ans. Un matin, des hommes du village me dénoncent. Le lendemain, on vient m'arrêter chez moi pour me mettre en prison. On me pique tout le corps pour chercher la marque du diable. Je suis accusée d'avoir participé à des sabbats, de manger des enfants, de forniquer avec le démon. Le lendemain, je suis accusée pour sorcellerie et condamnée au bûcher. On me met un grand habit blanc et on m'attache à une échelle pour me basculer la tête la première dans le feu, sur la place du village.
Je suis suis avec Ito Medawi du collectif Marthe qui a accepté de répondre à mes questions sur leur spectacle. Merci beaucoup, Ito. Donc, comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre en scène ce spectacle et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la figure de la sorcière ?
Alors, on venait de sortir d'une école de théâtre et il y a l'une d'entre nous, donc Clara Bonnet, qui nous a réunis toutes les quatre, donc avec Marie-Ange Gagnon et Aurélia Luchère et moi-même. Et elle nous a dit « Ah, j'aimerais bien faire un spectacle, enfin j'aimerais bien qu'on parle des sorcières ». Et c'était un moment où il y avait un livre qui s'appelle « Caliban la sorcière » d'une historienne féministe marxiste qui s'appelle Silvia Federici et qui a écrit donc « Caliban la sorcière, une histoire de l'accumulation primitive », je crois c'est le sous-titre. Et c'est un livre qui est assez dense, complexe et qui retrace en fait toute l'histoire des chasses aux sorcières et en faisant en fait des parallèles et des ponts avec l'histoire du capitalisme, de l'avènement du capitalisme. Et donc au tout début, on s'est dit on n'a pas de formation universitaire, on est comédienne, mais venez, on se retrouve ensemble, on essaye de lire ce livre. Et en fait, au fur et à mesure qu'on lisait, on sentait qu'il y avait des parallèles et des ponts avec des oppressions qu'on pouvait vivre aujourd'hui. Enfin, on se rendait compte qu'il y avait quand même quelque chose des histoires des chasses aux sorcières qui était un peu dans nos inconscients et dans un inconscient collectif. Et on avait envie de travailler un peu sur ça. À la fois, on a vraiment mené un peu ce travail en parallèle où on se disait, c'est quoi, toi, les sorcières de ton enfance ? Et ça, on le voit dans le spectacle. Il y a, par exemple, Clara qui rejoue la scène d'Esmeralda, des figures de sorcières qu'on a pu croiser dans nos enfances. Et à la fois, on se parlait, d'une femme qui vivait seule, qui était un peu vieille, un peu bossue. Enfin, et on se disait, c'est fou, toutes ces images qu'on a des sorcières, qui sont comme ça, un espèce de fantasme un peu collectif. Et en même temps... on lisait vraiment une histoire qui était beaucoup plus... qui parlait finalement des personnes qu'on a dites sorcières qui ne se revendiquaient pas comme telles, quoi. Et donc, on voulait un peu travailler comme ça sur le pont qu'il y avait entre les sorcières dont on avait très peu de témoignages. On a fait tout un travail de recherche comme ça. On essayait de voir. Mais en fait, on trouvait les procès-verbaux, des procès en sorcellerie. Et finalement, on entendait... Je veux dire, c'est que la retranscription biaisée de ces procès. Et on voit qu'elles arrivent très peu à parler, qu'elles sont sous la torture. Et on se disait, en fait, il faut qu'on réussisse à combler ce manque et ce vide pour dire quand même que ça peut exister. C'est un peu se dire, il faut qu'on re-raconte des histoires. Et le théâtre, il nous permet aussi d'inventer des figures, de ne pas avoir une fiabilité des sources.
Et donc la sorcière, comme tu l'as dit, c'est une figure entourée de nombreuses histoires, de beaucoup de mythes différents, des légendes différentes, avec une figure assez complexe et ambivalente finalement entre les différentes représentations qu'on peut en avoir. Et donc ça doit nécessiter un travail quand même colossal de réflexion pour réussir à trouver comment représenter cette figure-là dans votre spectacle.
Ouais, mais je pense que ça, t'as vraiment raison. Et comme on est parti d'un livre qui commence comme ça à la fin du Moyen-Âge en disant que les femmes avaient une importance dans la vie collective, qu'elles avaient comme ça un statut, qu'il y avait toute une lutte, qu'il y avait des luttes très très intenses au Moyen-Âge sur la sauvegarde des communaux, donc les endroits où les paysans pouvaient librement chercher du bois, s'organiser. Et elle dit il n'y avait pas tellement de division sexuée du travail à ce moment-là. Et que tout s'organisait comme ça autour de l'univers du foyer. Et en fait, elle va décrire comment, petit à petit, ça va être mis à mal par des systèmes qui vont finalement cantonner les femmes à une sphère privée. Et elle dit, en fait, le moment de la chasse sorcière, c'est un moment, tout d'un coup, comme ça, on va vraiment contrôler d'abord les paysans, les paysannes et tout ça, et puis créer cette vision et contrôler surtout la reproduction, enfin le pouvoir... des femmes sur leur propre capacité reproductive. Et donc nous, dans le spectacle, à la fois, je crois qu'on joue pas tellement de sorcières. Enfin, on est très proche de nous. On a créé un personnage qui s'appelle Marthe et donc qui traverse comme ça les âges. Elle traverse quatre siècles, si je me trompe pas. et on la voit de sa naissance à sa mort sur un bûcher. Et en fait, elle va traverser comme ça tous les moments. On la voit, la première scène, c'est pendant les révoltes paysannes. Elle perd tout, elle commence à s'organiser dans les bois avec des amis pour lutter contre les enclosures. Donc ce mouvement comme ça de destruction des communaux. Puis on la retrouve, elle est sage-femme et on lui demande, et il y a quelqu'un, un inquisiteur qui vient lui demander des comptes sur un avortement qui s'est mal passé. Et on la voit aussi quand elle va en ville. Oui, une fois qu'elle est partie de la campagne, elle va travailler en ville. Et ça, on s'est appuyé aussi sur le livre qui dit qu'il y a pas mal de femmes qui vont en ville, qui ont une certaine autonomie à un moment où elles arrivent à s'organiser. Puis il y a des édits qui décident que les femmes ne peuvent plus travailler en ville. Ensuite, elle est sage-femme. Et ensuite, on la voit donc à un procès qui est une des dernières scènes du spectacle où on lui pose des questions sur comment elle a rencontré le diable. Donc là, on s'est vraiment appuyé comme ça sur des procès de sorcellerie pour avoir des éléments de quelles étaient les tortures, comment chercher la marque du diable, qui en fait était le clitoris, comment il y a tout un tas d'humiliations qui se mettent en place. Et moi, je joue par exemple l'inquisiteur et j'ai une basse électrique, et au fur et à mesure, le son monte et finalement sa voix est complètement recouverte et on sent qu'elle n'a pas d'échappatoire. Et on voulait, dans cette scène, c'est assez formel, quoi, on ne bouge pas beaucoup. Il y a le bourreau qui fait du yoga sur une table pour avoir un peu les postures d'écartèlement. Et ce personnage de Marthe, donc, chacune des comédiennes, on traverse tout à un moment donné, qui est immobile en fait et qui ne peut plus parler, quoi, et finit par mourir. Et donc les sorcières, souvent les gens nous disent « Ah, mais il n'y a pas beaucoup de sorcières dans votre spectacle. » Enfin, on espérait qu'il y en ait plus, et nous, je pense que dans le spectacle, il y a des états de corps qui sont quand même assez forts. Donc on fait vraiment on a ce fil du Moyen-Âge et puis on a des scènes très très contemporaines. Donc on peut passer d'une scène où on voit le roi qui parle aux femmes qui s'organisent dans une forge, et puis tout d'un coup on bascule à une scène qu'on appelle par exemple la confrérie du phallus, où c'est des philosophes qui sont en train de parler de la mécanisation du corps et qui sont dans une salle d'anatomie. Puis après on passe chez une gynécologue aujourd'hui en 2023. Enfin, donc il y a des espèces comme ça de fossés qui sont assez grands entre les époques et les états de jeu. Et souvent, nous, on s'est dit que les moments où on était le plus des sorcières, où on faisait des figures comme ça un peu monstrueuses... Enfin, en fait, on n'arrête pas d'osciller, je pense, sur la recherche de comment on peut jouer le stéréotype de la sorcière, mais qui ne soit pas forcément les femmes qu'on disait sorcières. On joue à un moment cette scène des Lumières où c'est René Descartes, Thomas Hobbes et Jean Bodin, qui était un des monologues et qui a... Voilà, et moi je joue Jacques Sprenger, qui a écrit donc un best-seller qui est le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Et en fait, à ce moment-là, on joue des figures extrêmement grotesques et monstrueuses. Et nous, on a l'impression, enfin pour nous, c'est comme si, en fait, de rejouer des personnalités comme ça politiques qui ont finalement participé à un asservissement ou qui ont réfléchi au corps des femmes à la place des femmes elles-mêmes. C'est les moments où on a l'impression, oui, de rentrer dans ces espèces d'états un peu de transe. Mais finalement, c'est pas quand on joue... on a voulu comme ça laisser un flou sur cette figure de la sorcière.
Et donc, comme on disait, la sorcière, elle est souvent représentée comme une femme rebelle, agressive, et donc violente. Elle était accusée d'être une empoisonneuse, d'être une tueuse d'enfants, de voisins, d'animaux, une cannibale. Enfin, vraiment, les méfaits sont nombreux. Et pourtant, ça reste, comme tu disais, une représentation, un imaginaire, et votre spectacle montre, parce qu'avec cette remarque, comme tu disais, il n'y a finalement pas beaucoup de sorcières, mais c'est parce que votre spectacle, donc, montre cet écart entre une réalité historique où finalement les femmes étaient accusées d'être des sorcières, alors qu'elles ne l'étaient pas, et donc un imaginaire qui les imaginait comme des femmes violentes, finalement. Et votre spectacle met bien ça aussi en perspective.
Effectivement, nous, c'est vraiment, on a travaillé ça sur cet écart entre les perceptions Et par exemple, y a des scènes dans le spectacle où on fait une scène d'autogynécologie, donc on regarde à l'intérieur voilà, du vagin d'une des comédiennes. Bon, c'est complètement mis en scène et tout ça, hein. Et en fait, on décrit les glandes et on décrit qui a nommé ces glandes-là, comment. Donc nous, on est dans un travail comme ça, un peu de réappropriation, finalement, de qu'est-ce qui a été nommé, comment ça a été nommé. Pour montrer cet écart entre les représentations. Et par exemple, on commence l'ouverture du spectacle, on montre comme ça tout un tas de... On a rassemblé une iconographie assez énorme. On essaye de voir comme ça les premières gravures de sorcières, où on voit des vieilles femmes très laides. Enfin, il y a toujours des stéréotypes aussi de féminité entre la femme très... Enfin, la femme très, très vieille, très laide, la jeune apprentie, enfin, qui... Les animaux de compagnie, enfin, il y a tout cet imaginaire comme ça qui est tissé, et les représentations sont tellement englobantes, et souvent on voyait que les femmes qui étaient représentées, bah, c'est justement toutes les femmes qui sont pas dans un moment de reproduction, quoi. Et parce que Federici, elle parle vraiment de ça, du moment où en fait on va essayer de vraiment contrôler la reproduction, qu'une femme ne peut être que productive, enfin reproductive dans cette chose de la reproduction, ou sinon elle est déviante, quoi. Donc les femmes vieilles, les femmes qui vivaient seules, enfin il y a tout un chapitre comme ça sur des mouvements d'hérétiques où il y a pas mal de femmes qui veulent pas avoir d'enfants, ou qui, enfin, où c'est un choix politique, et où au contraire on va leur dire, enfin on va les décrédibiliser, on va dire qu'elles sont des sorcières. Et il y a vraiment cette chose... Enfin, nous, on a lu le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières, mais c'est des descriptions qui sont terribles et qui, enfin, complètement, oui, qui joue avec la peur, le fantasme, et c'était vraiment, enfin, cet écart-là qui nous intéressait comme ça, de comment on a pu produire autant de fantasmes autour de cette figure pour diffuser de la peur, faire de la division, et finalement, ouais, enlever aux femmes un peu le pouvoir qu'elles avaient, et qui était, enfin, il y a vraiment tout un pan qui est là-dessus, sur le fait que finalement, on va décrédibiliser les sages-femmes. Enfin, comment finalement les femmes sortent de toutes ces, même cette sphère de reproduction qui est à la fois les avortements, les naissances, pour être remplacées par une médicalisation faite par des hommes. Comment ça, enfin, voilà, on voulait aussi décrire un peu la naissance comme ça de ce processus, et de aussi d'un désenchantement un peu. Enfin, qui se passe aussi à ce moment-là, quoi. Et nous, on avait comme ça en tête les féministes des années 70, et même plus récemment dans des rassemblements antinucléaires et tout ça, de personnes qui, en fait, revendiquent finalement le fait aussi de pouvoir avoir accès à la violence, de finalement dire... on a ce slogan comme ça qu'on dit dans le spectacle, c'est « tremate, les streghe sont tornate », tremblez, les sorcières sont de retour, et pour dire... qu'il y a des personnes qui se réapproprient cette figure de la sorcière en disant « mais oui, en fait, on a des pouvoirs et on peut réenchanter le monde, et même si, voilà, même si le capitalisme a créé comme ça aussi une... enfin, voilà, l'impression qu'on ne peut pas avoir facilement d'accès à l'enchantement, ou au fait de se dire que la matière est vivante, qu'il y a des liens entre les choses, entre les gens, enfin... Nous, on ne traite pas tellement de cette chose-là dans le spectacle, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, quoi.
Et donc, tu parlais de la sorcière comme une femme déviante, et c'est ce à quoi fait écho le titre de votre spectacle, Le Monde Renversé. C'est un titre qui est intéressant parce que ça apporte une réflexion aussi sur le sujet des femmes violentes, dont les sorcières, et sur la manière dont elles peuvent être transgressives et bouleverser justement les normes sociales. Et c'est en ça aussi qu'elles sont dangereuses. Et donc c'est aussi quelque chose qui fait écho dans votre spectacle, cette dimension de transgression.
Complètement, il y a un, comme ça un moment, on lit quatre extraits de Silvia Federici dans le spectacle, qui sont des moments où il y a une musique très rock, comme ça, on va à l'avant-scène, on a le livre et on porte cette parole-là. Et le premier extrait, c'est vraiment sur la figure de la sorcière, et elle décrit le sabbat, en fait, comment est née comme ça cette vision du sabbat. Et en fait, elle dit, bah, au moment où il y avait comme ça les révoltes paysannes, bah, forcément, les paysans et paysannes se retrouvaient la nuit. Elle parle des horloges qui tournent à l'envers, enfin, qui a comme ça une transgression, en fait, du rythme un peu capitaliste des horaires et du fait de respecter un ordre établi, et que, en fait, tout le moment comme ça des révoltes, des prises de pouvoir, c'est un bouleversement de justement de l'ordre établi, Et finalement, on voit que tous ces moments de sabbat, du fait que les femmes puissent avoir un contrôle sur les sexualités, qu'il y ait des sexualités libres, enfin beaucoup plus libérées. En tout cas, dans tout le livre, elle parle vraiment de ça, de ces espèces de moments de grands bouleversements sociaux où il y a une effervescence, où il y a le feu, où il y a des nouvelles initiatives, et à la fois comment il y a un contrôle qui récupère et qui vient de dire « Ah bah non, en fait, il y a du sabbat, il y a des meurtres d'enfants, il y a... » Et on n'arrête pas comme ça d'osciller... Entre ces figures. Et nous, on voulait dans le spectacle qu'il y ait vraiment un rythme comme ça. Où on... C'est comme si on se faisait des propositions au plateau de « Tiens, on est dans telle scène. » Et en fait, il y a des rapports aussi de pouvoir, même entre nous, qui se jouent, pas sur le plateau, mais par exemple, il y en a une qui va jouer une gynécologue qui vient poser un diagnostic terrible, qui vient culpabiliser... comme ça, une de nous qui va la voir pour, parce qu'elle a un pic, elle a mal à l'intérieur de son utérus, et elle vient lui dire « Mais en fait, vous n'avez pas de moyens de contraception, mais vous pouvez faire des enfants, ça va aller mieux. » Enfin, elle a un discours très, très culpabilisant comme ça, et ça l'oppresse de plus en plus. La lumière est très... Enfin, c'est une scène qui est très crue. Et en fait, il y a après un retournement où elle lui dit « Bon, on va faire une celluloscopie. » Elle se met comme ça du rouge sur les mains, et elle avance. Et là, il y a un inquisiteur qui arrive et qui vient questionner cette même femme qui a joué, enfin cette même comédienne qui a joué la gynécologue, sur pourquoi est-ce qu'elle a fait des avortements. Donc il y a souvent nous, ouais, on a la sensation dans le spectacle qu'on renverse à chaque fois les dynamiques aussi de pouvoir, de domination, et qu'on n'arrête pas comme ça d'osciller à l'intérieur même, quoi, de la représentation. Et donc le monde renversé, c'est vraiment une citation du livre. Et aussi, on était tombé sur des gravures qu'on avait vraiment adorées, des premières gravures comme ça du Moyen-Âge où c'est le monde renversé. Et c'est des tout petits encarts comme ça avec la femme tape son mari, le bœuf écartèle le boucher, enfin... Et on trouvait ça assez fort, quoi, de voir cette espèce de monde qui tourne à l'envers, et qui est des représentations comme ça très anciennes, quoi, du fait de renverser les rôles.
Les sorcières, elles ont été accusées injustement la plupart du temps d'avoir été violentes, et ce sont elles finalement qui ont subi les violences de la part des hommes politiques notamment. Et elles ont été dominées, Marthe à la fin, elle se retrouve sur un bûcher, et vous avez... De ce fait aussi choisi de mettre en lumière non pas seulement l'imaginaire des sorcières comme violentes, mais aussi des violences qu'elles ont elles-mêmes subies dans l'histoire.
Et ça, oui, effectivement, et vraiment par rapport à cette scène du procès, en fait, en lisant les procès de sorcellerie, on voyait qu'il y avait quand même des choses qui revenaient souvent, que par exemple, sous la torture, il y en avait pas mal qui parlaient d'effectivement peut-être qu'elles avaient rencontré un homme dans le bois qu'elles ne savaient pas exactement, et en fait souvent ça décrivait aussi des viols, enfin on voyait vraiment, on arrivait à lire entre les lignes que c'était ça, qu'effectivement oui il y avait des rencontres de sexualité, il y avait parce qu'il y avait des viols, et donc ça c'était une des choses qu'on avait envie de montrer ben, toutes ces tortures, comment ces femmes finalement elles ont été silenciées par l'histoire aussi, par et comment, ben oui, il y a des mouvements comme ça qui, heureusement qu'il y a des personnes comme Federici, comme il y a un livre qui est super aussi, Sage-femme, sorcière et infirmière, de Barbara Ehrenreich et je sais plus, d'être English, qui ont écrit comme ça. Et c'est super beau, parce que je crois que dans leur préface, elles disent « Nous, on fait aussi avec les manques de l'histoire. » quoi. Donc peut-être on va raconter des conneries, mais en fait, on a besoin de cette histoire-là pour reconstruire aussi, pour faire ce travail de reconstruction, parce que ces choses-là, en fait, elles nous habitent inconsciemment aujourd'hui. Elles habitent le patriarcat. Elles sont présentes. Quoi. C'est pas une petite période de l'histoire. Quoi. C'est vraiment des conséquences sur un très, très long terme. Et après, justement, nous, en ayant fait ce spectacle, c'était assez dur parce qu'on finissait sur la scène du bûcher. C'est pas la dernière scène. Heureusement, il y a un peu un retour et qui permet quand même, parce que, en fait, on finit vraiment sur les frais du procès de Marthe, combien ça a coûté, que le fait qu'elle ait pas de famille, combien ça a coûté à la communauté, qui va devoir payer le bois, qui va devoir payer le travail du bourreau, le travail pour la bissouffrée, enfin... Donc on parle de l'économie aussi, de ce que c'était finalement les procès, enfin une économie un peu juteuse et tout ça. On a un retour un peu qui permet quand même de réalléger. Mais quand même, ça nous avait marqué que ça se termine sur ce procès. Et ça nous a donné en fait l'envie. Donc notre deuxième spectacle, du coup, c'était Tiens ta garde. Et là, c'était vraiment... On voulait voir en fait si Marthe avait riposté, enfin si elle avait pu avoir cet espace-là. Et là, on s'est intéressé du coup plutôt au mouvement d'autodéfense et de l'autodéfense féministe. Et vraiment les représentations des femmes violentes, quoi, à travers l'histoire, et la réappropriation possible de la violence.
Tu disais que vous avez lu Caliban et la sorcière de Federici, vous avez lu les procès des sorcières. Donc à la fois, il y a vraiment tout un travail théorique assez riche dans votre spectacle et qui traite de réalités crues et assez dures, mais il y a aussi de l'humour et c'est un spectacle qui est à la fois... intense, mais en même temps parfois léger aussi.
Oui, mais ça, je pense aussi, comme on est très... Enfin, on est vraiment comédienne, et je pense à la base aussi, ce qui nous rassemblait, c'était quand même la joie qu'on avait d'être ensemble. Il y avait tout un truc de vouloir s'écrire nos propres rôles, et qu'en fait, on se marre, quoi, beaucoup. Même si c'était très dur, et ce qui était bien, c'est qu'on avait des espaces où, à la fois, ça nous était vraiment... très en colère, mais on trouvait ça aussi ridicule. Donc on avait envie, je pense, de passer comme ça par des états un peu extrêmes et amener les spectateurs, spectatrices dans ces ambiances-là, quoi, que les gens puissent rire et puis tout d'un coup être un peu... Enfin, s'arrêter de rire, pas savoir si le rire pouvait être malaisant ou pas, mais... Ben, je sais pas, un spectacle qui montre à la fois la complexité de cette histoire-là, mais aussi la joie de la réappropriation. Enfin, le fait, voilà, que... Parce que quand on fait cette scène d'autogynécologie, on rigole. Enfin, moi, quand je vois mes copines jouer, elles me font rire, même sur scène, quoi. Et c'était hyper important pour nous qu'il y ait cette dimension aussi de... Enfin, qu'il soit ludique, qu'on fasse des spectacles qui nous fassent rire, qu'on espère que ça fasse rire aussi, et qu'on soit... Et pour nous, la joie, la colère, la révolte, la tristesse, ça doit être un peu tout entremêlé et tissé pour que ça soit, je sais pas, productif, que ça nous fasse réfléchir et que ça vous fasse réfléchir aussi, quoi.
Merci beaucoup, Ito, d'avoir répondu à mes questions et pour ces éclairages sur votre pièce qui est très riche, très intense. Vous l'avez jouée jusqu'au 15 décembre au Théâtre de la Croix-Rousse.
Sabbat, vol nocturne, infanticide, vol de pénis, destruction de récolte, ce spectacle met donc en scène cette fabrique de l'imaginaire, les accusations perpétrées contre ces sorcières, mais il décortique aussi les motifs politiques qui ont poussé à cette chasse historique. En permutant régulièrement les pôles entre agressés et agresseurs ou agresseuses, en mettant en scène des relations de soumission et de domination qui ne cessent de bouger, les quatre comédiennes soulignent les renversements sans cesse opérés dans ces perpétuations de la violence. L'image de la sorcière a ainsi permis une stigmatisation des femmes. Elle a construit l'imaginaire d'une femme violente, déviante, dangereuse, qui offrait donc un prétexte efficace pour condamner et contrôler des femmes qui n'entraient pas dans les nouvelles normes que la société souhaitait imposer. Ainsi, la confusion entre violence imaginaire d'un côté et violence réelle peut parfois être mince, floue, difficile à cerner et à rétablir, et la figure complexe de la sorcière nous le montre très clairement. C'était Violente, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre l'actualité de Transistor, à regarder notre page Instagram ou à consulter notre site web transistor.fr pour être au courant des nouveaux épisodes. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt. I